Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, les funérailles irakiennes du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien Abu Mehdi Al-Mouhandis tué dans une frappe américaine. Quelles ambitions prêtées aux États-Unis et quelle riposte iranienne? Analyse de Christian Chesneau. En Espagne, les enjeux des débats à la Chambre des représentants sur la reconduction au pouvoir de Pedro Sanchez. La grève à Radio France, le chœur et le philharmonique mobilisés ce matin contre le plan de départ volontaire de la direction. Reportage d'Adrien Paluet. Puis la bulle écho de ce samedi pose la question suivante, vertigineuse, que n'aura pas manqué de poser au puissant Greta Thunberg? Est-ce bien raisonnable d'imaginer une croissance illimitée dans un monde fini? Le Parlement irakien devait débattre aujourd'hui de l'avenir des 5200 soldats américains postés en Irak. Séance remise à demain pour que les élus puissent assister aux obsèques du général iranien Qassem Soleimani et de l'irakien Abu Mehdi Al-Mouhandis, numéro 2 des milices Hajj al-Shaabi, la coalition des paramilitaires intégrés à l'État. Funérailles qui ont commencé dans le sanctuaire chiite du quartier de Qasimiyya de Bagdad. C'est une correspondance à Téhéran d'Aurélien Colli.
Mort à l'Amérique, vengeance, voilà sans surprise les slogans qui ont accompagné ce matin le cortège funéraire du général Soleimani, de son principal lieutenant en Irak, le chef de milice Abu Mehdi Al-Mouhandis, et des 8 autres cadres pro-iraniens tués dans le raid américain de jeudi soir. Dans la foule qui a accompagné les cercueils, des drapeaux irakiens, mais aussi les étendards blancs ou jaunes des milices chiites pro-iraniennes, et des portraits du guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, et même du chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah. Parti d'un sanctuaire chiite de la capitale, le cortège s'est dirigé vers la zone verte ultra sécurisée où l'ambassade américaine a été attaquée mardi dernier par des milliers de manifestants pro-iraniens. La foule n'y a pas pénétré. Seuls les pick-up transportant les cercueils sont entrés dans cette zone sanctuarisée pour une cérémonie officielle en présence de hauts responsables, présents notamment le patron des parlementaires irakiens proches de Téhéran, plusieurs chefs de factions chiites pro-iraniennes, l'ancien premier ministre Nouri al-Maliki aussi, et celui qui vient de démissionner, Adel Abdel Mahdi. La dépouille du général Soleimani sera ensuite transportée cet après-midi à Najaf et Kerbala, deux villes saintes chiites, plus au sud de Bagdad. Elle partira ensuite en Iran pour des obsèques officielles dans la capitale lundi, puis un enterrement dans sa ville natale, Kerman, mardi. Une longue séquence funéraire à la hauteur du rôle joué par le général Soleimani dans le régime iranien.
Eratoum, Aurélien Colli signe là une correspondance de Beyrouth. Selon la télévision publique irakienne, l'armée américaine aurait mené un raid hier soir, une frappe aérienne sur la route de Taji au nord de Bagdad contre une milice que nos confrères ne nomment pas. Une source militaire irakienne, cette fois, elle prétend qu'il s'agit de Hajj al-Shaabi et que c'est un convoi médical qui a été visé et non des dirigeants de la milice. Cette même source avance un bilan de 6 morts et de 3 blessés graves. Hier soir, lors d'une brève allocution en Floride, le président américain déclarait pourtant qu'il était strictement opposé à se lancer dans une guerre. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Christian, que cherche au fond à déclencher les États-Unis en Irak?
Écoutez, Donald Trump le répète à longueur de tweets et de déclarations, il ne veut pas la guerre et ne travaille pas à un changement de régime à Téhéran, sauf que la liquidation physique du général Qassem Soleimani est considérée comme un acte de guerre par l'Iran, qui vient d'ailleurs de notifier officiellement dans un courrier au Conseil de sécurité de l'ONU qu'il se réservait le droit d'exercer sa légitime défense. Donald Trump a-t-il bien mesuré les conséquences du raid de Bagdad? A-t-il une stratégie pour la suite? C'est peu probable quand on connaît l'imprévisibilité du président américain. De son point de vue, ces frappes viennent rappeler que les États-Unis sont encore capables d'agir seuls et de manière déterminante au Moyen-Orient. Est-ce que cela va contribuer à stabiliser la région? Évidemment non. Le résultat, c'est que l'Iran est poussé dans ses derniers retranchements, qu'il se radicalise et que l'assassinat du général Soleimani va provoquer des réactions en chaîne. D'ailleurs, les Européens, en particulier Paris, Londres et Berlin, ne soutiennent pas l'opération décidée par Donald Trump, ainsi que la majorité des dirigeants de la planète, à l'exception de l'Israélien Benjamin Netanyahou. Tout le monde appelle à la retenue et craint une escalade dangereuse, un engrenage dévastateur, tant sur le plan sécuritaire que celui de la prolifération nucléaire.
Alors Christian, justement, de quels appuis peut se prévaloir la République islamique? Quelle riposte peut-elle envisager?
Il faut bien comprendre que les Iraniens ne sont pas du genre à répondre à chaud et dans la précipitation parce qu'ils savent que Donald Trump n'attend qu'une surenchère de Téhéran pour lui infliger une réponse militaire encore plus grande. La République islamique est tout sauf un régime suicidaire. L'Iran va donc prendre son temps pour examiner les modalités de ses représailles. La vengeance se fera au bon moment et au bon endroit, a promis Téhéran qui a l'embarras du choix des cibles. À court terme, des tirs de roquettes contre des bases américaines en Irak sont à craindre, de même que des enlèvements. Washington maintient plus de 5000 soldats sur place qui sont autant de cibles de proximité. Mais Téhéran voudra sans doute opérer dans l'ombre, de manière indirecte, pour ne pas être impliqué en première ligne, c'est-à-dire agir via ses alliés locaux au Liban avec le Hezbollah, au Yémen avec les Houthis, mais surtout avec les milices chiites irakiennes, celles de Hashd al-Shaabi ou du Kataeb Hezbollah, celles qui avaient été d'ailleurs organisées par le général Qassem Soleimani pour lutter contre les djihadistes. En tout cas, il y a déjà une première conséquence. La coalition internationale anti-Daesh en Irak vient de réduire ses opérations pour des raisons de sécurité et l'OTAN a suspendu ses missions d'entraînement.
Merci à vous, Christian Chéneau, de toutes ces explications. En Libye, l'appel à la mobilisation et au djihad lancé dans une posture martiale par le maréchal Haftar, l'homme fort de la Cyrénaïque, qui cherche à prendre le contrôle de Tripoli, appel lancé 2 jours après le feu vert du Parlement turc à l'envoi de troupes aux côtés du gouvernement d'Union nationale qui tient encore la capitale libyenne. La Chambre des représentants espagnols entame, elle, aujourd'hui son débat sur la reconduction au pouvoir de Pedro Sanchez, le chef du gouvernement, vient de faire son discours de politique générale et les députés ont maintenant 2 jours pour en discuter avant un premier vote demain. Pour le moment, nul ne sait si la décision prise hier soir à l'encontre de Quintera par la commission électorale espagnole pourra influer sur la décision des élus. Le président indépendantiste catalan a en effet été déchu de ses fonctions de député régional, ce qui impliquerait qu'il perde la présidence de la Catalogne. Les précisions à Madrid de Mathieu de Taillac.
En principe, tout est prêt. Les socialistes ont convaincu les derniers députés qui manquaient à l'appel hier soir. Une courte majorité, 167 parlementaires pour l'investiture de Pedro Sanchez, face à 164 contre, semblait donc s'être dessiné, aux côtés du Parti Socialiste, le PSOE, Podemos, de gauche radicale, qui doit participer au futur gouvernement de coalition, mais aussi des partis régionaux non indépendantistes. En face, dans le camp du non, le Parti Populaire de droite, Vox d'extrême droite, Ciudadanos de centre droit et encore des formations régionales dont 2 partis indépendantistes catalans. Et au milieu, engagés à s'abstenir et donc à laisser la voie libre à la majorité de gauche, plusieurs partis dont ERC, les indépendantistes catalans de gauche. ERC a préparé un accord avec les socialistes, un texte qui prévoit une négociation bilatérale entre le gouvernement espagnol et le gouvernement régional catalan. Tout semblait donc en place. C'était compté sans la commission électorale qui a décidé hier soir de réclamer la destitution du président catalan, Quim Torra, condamné pour un délit de désobéissance, ou en tout cas de lui retirer ses fonctions de député régional. La décision provoque un imbroglio juridique et politique dont on ignore encore quelles seront les conséquences sur le sort de Pedro Sanchez.
L'actualité française à 10h ce matin, les membres du chœur et de l'orchestre philharmonique de Radio France se sont rassemblés dans l'auditorium de la Maison Ronde. Ils ont organisé un événement musical pour protester contre les suppressions de 299 postes prévus par la direction de Radio France. Au programme, la répétition de la 9e symphonie de Beethoven, thème principal des concerts donnés ce soir et demain. C'est un reportage signé Adrien Paluet.
Dans le grand auditorium de la Maison de la Radio, chanteurs et musiciens s'accordent avant d'entamer la 9e symphonie de Beethoven, plus connue sous le nom d'Hymne à la joie. Mais face aux suppressions de postes, pas de joie pour Daniel Durand, membre du chœur depuis plus de 30 ans.
Pour moi, Radio France, c'est toute ma vie. Je veux dire, j'ai acquis une expérience professionnelle, joué, chanté avec les plus grands orchestres du monde, les meilleurs chefs du monde depuis 30 ans. Et pour moi, c'est un déchirement ce qui se passe aujourd'hui, un véritable déchirement, quoi.
À l'inverse, cela fait 4 ans et demi que David Lefort travaille au chœur de Radio France. Avec ce plan social, c'est l'avenir de tous les chanteurs lyriques qui est remis en cause.
Pour l'instant, la direction manœuvre de manière à ne viser personne. Tout le monde sera incité à réfléchir profondément, à savoir s'il veut partir plus tôt qu'une retraite prévue. Mais c'est vrai que dans des métiers comme les nôtres, artistes lyriques, c'est pas simple de se convertir comme ça. Et c'est un métier un peu qu'on exerce par passion.
Selon Lauria Lamy, amputer le chœur de 30 de ses membres serait un coup porté à une institution mondialement reconnue, vieille de 70 ans.
On nourrit beaucoup d'espoir quand on est un jeune chanteur et qu'on est passionné par la musique symphonique, le chant choral. Un jour, peut-être, de rentrer dans le cœur de Radio France. Et si ce cœur n'existe plus, ce sont aussi des portes qui se ferment pour les nouvelles générations et pour tout un rayonnement de la musique dans le monde que porte à la fois Radio France et ce cœur de Radio France qui incarne la musique française aussi dans son ensemble.
Depuis le 31 décembre, la CGT appelle le personnel de Radio France à faire grève pour une durée indéterminée.
Ainsi se referme le soir reportage signé Adrien Palluet.
La bulle économique. Marie Viennot.
Une croissance illimitée, est-ce possible dans un monde fini, au-delà du constat légitimement inquiet de Greta Thunberg sur le changement climatique? Y a-t-il seulement des solutions? Ce sont là les questionnements de la bulle éco de ce samedi.
Et des écosystèmes entiers s'effondrent, nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et des contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous?
Fin septembre à l'Assemblée des Nations Unies. Quelques semaines plus tard, le magazine Time décerne à Greta Thunberg son titre de personnalité de l'année. Dire que la croissance infinie est impossible dans un monde fini, la jeune Suédoise n'est ni la seule, ni la première à le faire. En 1972, le désormais bien connu Club de Rome avait intitulé son premier rapport « Halt à la croissance ». À ce moment-là, le produit intérieur brut mondial, c'est-à-dire la richesse matérielle produite sur la Terre, était de 3 800 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 86 000 milliards de dollars. 22 fois plus. Pour la planète, c'est un mal. La courbe des émissions de gaz à effet de serre suit la progression du produit intérieur brut. Et si parfois ces émissions mondiales ont pu baisser, c'est parce que la croissance avait baissé aussi. Pour les habitants de la Terre, en revanche, cette augmentation du PIB est bienvenue. 22 fois plus de PIB pour une population qui, dans le même temps, a doublé, c'est plus de richesses pour chaque habitant. En moyenne, bien sûr. Alors oui, cette richesse n'est pas équitablement répartie et c'est un problème. Même le FMI et la Banque mondiale le reconnaissent et parlent dorénavant de croissance inclusive ou de croissance au profit de tous, mais de croissance toujours. Augmenter le PIB, c'est augmenter le fameux gâteau, comme on l'entend dire parfois. Plus de gâteau, c'est plus d'argent pour les services publics, pour le pouvoir d'achat, pour les salaires, pour rembourser la dette. Le système économique ne sait pas faire sans. Et la planète, elle, ne peut plus faire avec. Il y a 20 ans, le jour du dépassement, ce jour où nous avons consommé les ressources renouvelables de la Terre, c'était le 29 septembre. Aujourd'hui, c'est le 29 juillet, 2 mois plus tôt. En disant cela, je fais ma Greta et m'expose aux critiques les plus virulentes. Gourous apocalyptiques, climato-hystériques ou dans une version plus douce, démobilisatrices et sans solution pour la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson.
Greta Thunberg, c'est bien, elle mobilise, mais quelles sont les solutions qu'elle met sur la table, je ne sais pas.
En ce début d'année, soyons positifs et attardons-nous sur les solutions systémiques car le temps presse. L'une des clés du changement, c'est la capacité de notre système économique à créer des richesses avec moins de ressources et moins de pollution. Ce découplage entre croissance du PIB et croissance des émissions de gaz à effet de serre est possible. Il a déjà eu lieu. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intensité en carbone du PIB diminue dans les pays développés. Mais cette baisse n'est que de 1,6% en 2018, alors qu'il faudrait qu'elle soit de 7,5% par an pour contenir le réchauffement de la planète dans les 2 degrés. Viser la neutralité carbone, comme le promettent la nouvelle Commission européenne et de plus en plus d'entreprises, c'est bien. Développer l'économie circulaire, c'est nécessaire, mais ce sera insuffisant pour décarboner nos économies dans les temps.
Alors, pourquoi attendre?
L'autre clé du changement, c'est de redéfinir la richesse. Le PIB doit-il rester la quête perpétuelle des politiques économiques? De nombreux économistes proposent des alternatives. Viser le bien-être humain et non la croissance. Le Bhoutan le fait déjà et la Nouvelle-Zélande a voté cette année un budget qui va dans ce sens. C'est inédit. Passer à la donut économie pour concilier justice sociale et contraintes environnementales. Vous vous demandez ce que c'est? Rendez-vous à la page de la bulle économique. Remettre enfin en question le concept d'homo economicus. Cet être guidé par la seule maximisation de ses intérêts. Bref, des idées, il y en a, mais ces quelques exemples montrent qu'il faut remonter très haut, à la base même de nos théories économiques, pour concevoir un changement rapide et à grande échelle. Or, ce chemin, ni l'enseignement en économie, ni la recherche ne sont en train de l'encourager.
Ça chauffe, faisons vite. ça chauffe, faisons vite.
Merci à vous, Marie Viennot. Quelques mots de la météo de l'après-midi, temps ensoleillé dans le sud où il faudra compter avec le Mistral et la Tramontane, mais la majeure partie du reste du pays reste sous la grisaille. Temps variable dans le nord-ouest, alors qu'ailleurs la grisaille pourra être tenace par endroits, avec une couverture nuageuse qui s'épaissira en Champagne et Lorraine. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue et la technique Alex Dang.